Mon grand amour, voici quelques nouvelles de ton ami qui s'ennuie loin de toi. En Italie, je guette les rebelles qui veulent abattre nos lois, notre foi. Sois courageuse, bientôt c'est la victoire.
Ce qu'on entend, Bernard, c'est la voix du soldat Lebrun, Roland Lebrun.
La connais.
Qui, pendant...
La connais, cette voix-là. Ma mère chantait les chansons du soldat Lebrun.
Ah, c'est vrai.
Je salue Denise, d'ailleurs, qui nous écoute.
Je la salue aussi. Mais j'ai pas eu de sirop d'érable cette année. Enfin, on va revenir
à nos moutons.
Revenons à nos moutons. Le soldat Lebrun, donc, c'était devenu la vedette. Tu sais, on avait un drôle de rapport avec la guerre. Je pense que tu en as parlé un peu avec Michel Barrette. Mm-hmm. On, essentiellement, les Canadiens français, pas tous, ne voulaient pas aller se battre sous un drapeau britannique en disant c'est une histoire pour aller défendre les Anglais, on n'a rien à voir là-dedans. Bon. La vérité, c'est qu'à un moment donné, d'abord, il y a beaucoup de soldats canadiens français qui se sont enrôlés simplement parce qu'on était encore en train de sortir de la grande crise des années 30 puis ils cherchaient un job.
Absolument.
Ensuite, il y en a d'autres qui y ont été pour l'aventure.
Oui.
Mais à un moment donné, tout le Québec a été mobilisé comme tout le reste de l'Occident. À un moment donné, c'est devenu plus grand que tout autre combat idéologique qu'on pouvait avoir à l'interne. Et c'est comme ça qu'on le soldat Lebrun... qui chantait un peu partout des chansons inspirées de la guerre, on vient de l'entendre. Mm-hmm. Et on a parlé tout à l'heure du débarquement, de sa logistique, de la façon dont il s'est déroulé.
Là, tu vas nous parler de la suite.
Oui, la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'après après le 6 juin au soir, là, ils ont accéléré le débarquement d'équipements qui arrivaient par des barges, d'équipements, des tanks, des véhicules de transport, toutes sortes de véhicules blindés, des pièces d'artillerie, sans arrêt. La plage ne s'arrêtait jamais. Pour y parvenir, ça leur prenait un port de mer. Ils n'étaient pas capables d'aller prendre le contrôle de Cherbourg, puis ils s'étaient pété à la gueule à Dieppe quelques années auparavant.
Exact.
Là, ils ont dit, on va en faire un port de mer. Ils ont amené des bateaux, des vieux bateaux britanniques, des vieux rafiots. Ils les ont amenés juste devant à Romanche, qu'on peut voir encore quand on va visiter la Romanche. On voit encore des morceaux de ce port improvisé. Et ils coulaient les bateaux, créant ainsi un brise-lame pour créer de l'eau plus stable pour aller débarquer des véhicules militaires qui étaient là. Alors, le premier objectif qui s'était fixé, c'était de prendre la ville de Caen. Ils pensaient qu'ils allaient être capables de le faire le 6 au soir. Non seulement ils n'ont pas été capables, mais ça a pris 2 semaines et demie, 3 semaines. Et c'est principalement l'armée canadienne qui a fait le travail, le sale travail. Les fusiliers Mont-Royal étaient là, le régiment de la Chaudière était là, le Royal 22e a commencé à faire son apparition dans cette bataille-là. Quand la ville, qui est la capitale de la Normandie, a été...
rasée.
Totalement rasée, ouais. Mais totalement rasée.
C'est des ruines, là.
Si vous allez en France, allez voir le mémorial de Caen, qui a été inauguré il y a 25 ans pour le 50e anniversaire du débarquement. Vous allez voir tout l'hommage qui est rendu aux Canadiens. Alors donc, revenons à nos moutons encore une fois. La bataille de Normandie a été beaucoup, 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 beaucoup plus difficile que tout ce qui avait été prévu.
Meurtrière, donc.
Hein? Meurtrière, puis de l'enlisement. Il était pas capable de bouger. D'ailleurs, à un moment donné, et ça, les historiens, on pourra en parler abondamment, les Britanniques avaient un grand général qui était plutôt préoccupé par son image qu'autre chose, Montgomery. Les Américains avaient une espèce de bombe qui s'appelait George Patton, qu'ils avaient mis sur la voie d'évitement parce qu'il avait sacré une claque sur la gueule à un prisonnier en Sicile, puis parce qu'il avait fait toutes sortes de bourdes.
Il était un peu cowboy, ouais.
Mais c'est probablement, aujourd'hui, les militaires te diront le meilleur général de l'histoire.
Oui, non, je sais, mais dans le temps, il est considéré comme un cowboy. C'est pour ça qu'ils le mettent de côté.
C'est une erreur, évidemment. Une terrible erreur. Puis les Allemands ne comprennent pas, disent c'est le meilleur, c'est évident. Ouais. C'est lui qui a sacré une volée à Edwin Rommel, le renard du désert, dans la bataille à côté de. En Égypte.
Al-Anaïm, c'est Montgomery.
C'est Montgomery.
Oui, voilà.
Alors, Patton est appelé comme en renfort, on tasse plus ou moins Montgomery, puis on dit à Patton, écoute, je ne sais pas ce qu'on fait, mais il faut que ça bouge.
Oui.
Et là, ça s'est mis à bouger à une vitesse d'enfer. Parce que très rapidement.
C'était très offensif, Patton, il n'y avait pas...
Puis surtout, il n'arrêtait pas.
C'est ça.
Il disait, j'aime mieux avoir mes soldats épuisés que de les voir se faire tuer parce qu'on n'avance pas assez vite.
Voilà.
Alors, ils ont fait une espèce d'encerclement vers ce qu'on appelle falaise, qui est au fond un grand cratère qui est là, naturel, en Normandie. Ils ont repoussé les armées allemandes vers ça, puis à un moment donné, ils sont tombés dans le cratère de falaise, et là, ça a été un massacre incroyable.
Donc, la poche de falaise,
qu'ils l'ont appelé, oui. Ouais. Et ça a été, bon, ça a pris 85 jours. Quand ils ont anéanti l'armée allemande dans la poche de falaise. Ils avaient gagné la bataille de Normandie. Et là, ils avaient décidé d'une stratégie qui faisait qu'ils allaient passer par le sud de la France et par le nord, au nord de Paris. Et que, et c'est ce qui explique le débarquement de la Provence qui a eu lieu en août. Et Paris, ils allaient contourner Paris puis attendre de faire tomber le régime nazi avant de sortir les Allemands de Paris. Il y avait un certain Charles de Gaulle qui n'était pas exactement du
d'accord,
même avis.
Oui, voilà.
Et il faut savoir que le jour du débarquement, il y a une division blindée française qui a participé sur une des plages britanniques, sur la plage Gold. Elle était commandée par un certain Leclerc. On l'a appelé d'ailleurs la division Leclerc. C'est ce qu'on avait pu sauver de l'armée française quand les Allemands avaient gagné. Alors, Leclerc, lui, son patron, c'est Eisenhower, c'est le commandant suprême des forces alliées, mais son patron de cœur, c'est Charles de Gaulle.
Son patron politique.
Son patron politique. Et là, quand de Gaulle apprend que non, on va passer pas... à côté de Paris,
ouais.
Il se précipite lui-même, il est arrivé à sur les plages de Normandie, exactement sur la plage où les Canadiens, à Juno Beach, mm-hmm. Il est arrivé le jour même, il s'est en allé vers Bayeux, qui est une mm-hmm. chouette petite ville où il a prononcé un célèbre discours, son premier discours en sol français. Alors, de Gaulle, lui, là, il dit « Wow! Il va voir Eisenhower, puis il va voir les autres, êtes-vous fous? Vous allez contourner Paris? Il est en train d'avoir un soulèvement populaire,
ben
il
oui,
va avoir
oui.
des guérillants, des communistes, puis ainsi de suite. Vous pouvez pas faire ça! » Et là, Eisenhower veut rien entendre. Il n'y avait aucune confiance en De Gaulle. Il faut se souvenir que les Américains se sont toujours méfiés de De Gaulle tout au long de cet épisode-là, sauf qu'à un moment donné, De Gaulle est allé voir Leclerc. Il était minuit le soir, puis il a dit à Leclerc, « Je vous donne l'ordre de rentrer sur Paris. » Alors, la division blindée Leclerc, qui doit regrouper à peu près 10 000 hommes, est partie en direction de Paris à plein régime, à pleine vitesse, là, comprends-tu?
Il est rentré,
mais à un moment donné, les Américains ont vu que c'était arrivé. Ils ont dit, on ne peut pas laisser faire ça. Ils vont se faire massacrer quand ils vont approcher des forteresses de Paris autour de ça. Mais là, ils ont lancé la 3e armée de Patton pour les venir comme en support à la division Leclerc. Et il y a toutes sortes d'anecdotes qui sont tellement merveilleuses entourant celle-là. D'abord, Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature, un de mes écrivains favoris. Et qui était connu pour faire la fête pas à peu près, n'est-ce
mais
pas?
Mais ça, oui.
Alors, il était correspondant de guerre pendant ce temps-là. D'ailleurs, pendant un bout de temps, il travaillait pour le Toronto Star. Ernest Hemingway dit à un de ses amis américains qui est là, « Regarde, les Français partent, je vais arriver avant eux autres. » Comment tu vas arriver avant eux autres? Il y avait un Jeep, puis il y avait un soldat américain qui était un peu éméché lui aussi. Ils ont sauté dans le Jeep.
Un peu gorlot.
Ouais. Puis ils se sont précipités sur Paris. Ils sont rentrés dans Paris, encore occupés par les Allemands. Puis ils se sont précipités au bar de l'hôtel Ritz, que Hemingway aimait avant la guerre. Ils se sont installés là, ils se sont commandés un drink, puis ont dit, « Ah ouais, c'est moi qui ai été le plus vite de la gang. » Donc, De Gaulle a forcé la libération de Paris. Et là, pendant ce temps-là, les troupes qui devaient normalement contourner par le nord de la France, on a dit, « Bon, OK, si on change nos plans, vous allez maintenant aller libérer les Pays-Bas. » Vous allez libérer toute cette zone-là, la Belgique. Ça, c'est les Canadiens en large partie qui l'ont fait.
Pour les Pays-Bas, oui, ah oui.
Et puis après ça, ben, à un moment donné, après le débarquement de la Provence, après la chute de la poche de Valaise, après la libération de Paris, là, ça s'est accéléré. Là, ça s'est énormément accéléré jusqu'à temps qu'ils rencontrent un dernier obstacle.
Les Ardennes.
Ouais, la bataille des Ardennes qui a éclaté à Noël 1944.
Incroyable.
Hitler avait concentré tout ce qu'il pouvait trouver, y inclut des enfants de 15 ans qui conduisaient des chars d'assaut.
La série Brothers in Arms là,
sur
HBO là, est incroyable ça, pour raconter cette bataille-là.
La bataille d'Ardennes, ça a été la dernière vraie bataille parce qu'après ça, ça s'est accéléré vers Berlin.
Là, on avait promis de prendre des appels. On va prendre des appels. 790-9850. Puis j'en appelle en particulier à vous qui avez peut-être eu un grand-père, un oncle, une tante, parce qu'il y a eu des femmes aussi, évidemment. Okay. Si vous avez une histoire de famille, une anecdote à nous raconter, des fois, c'est des affaires qui sont... Tout à l'heure, on avait quelqu'un là, qui nous disait là, que c'était resté un petit peu caché. Là.
C'est vrai, il ne voulait pas t'sais, en parler. J'en ai connu, moi. Des gens, ils n'ont jamais voulu en parler. Je connais des gens là, qui étaient là, qui étaient sur les plages.
Ils n'étaient pas capables d'en parler, Luc?
Incapables. Ils n'en parlaient pas à leurs femmes, ils n'en parlaient pas à leurs enfants.
Mais ils se réveillaient la nuit.
Oui.
Il y avait des cauchemars jusqu'à la fin. Là. Ah, il y a un monsieur, un militaire là, qui a témoigné, un Canadien, un Québécois là, qui est parti. Là, il est actuellement en Normandie. Il a donné une entrevue juste avant de partir. Oui. Le gars, je pense qu'il a 92 ans, le monsieur. Il dit « J'en rêve encore. Je rêve encore. »
Dans ce temps-là, on ne connaissait pas le syndrome post-traumatique.
Ben non.
Et alors, ces gens-là sont venus très souvent avec des problèmes d'alcool. Ils ont eu beaucoup de difficultés à se refaire une vie.
Alors, c'est Band of Brothers.
Band
of Brothers, voilà. On va s'arrêter, donc. On va prendre vos appels. 790-9850 après la pause. 98985, Drainville, à commercial. 98985.
Wie einst Lilli Marleen, unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lilli Marleen.
Drainville PM. La voix est libre.
L'effort de guerre canadien a contribué à faire du Canada une grande nation. Et il a joué un rôle décisif pour la libération de la France et de l'Europe.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'était Édouard Philippe, le premier ministre de France, qui rendait hommage donc au Canada, aux Canadiens, lors de cette commémoration
et
aujourd'hui.
Et juste avant la pause, il faut bien le mentionner, c'était la grande Marlène Dietrich, qui est un phénomène en soi. C'était une très grande actrice allemande, chanteuse aussi.
Ouais. L'Ange Bleu.
L'Ange Bleu est allée vivre en Californie, mais elle appuyait la cause allemande, jusqu'à temps qu'elle change de camp et qu'elle devienne maintenant l'appui des Alliés. Et ce qui est intéressant avec cette chanson-là, Lili Marlène, c'est un phénomène absolument incroyable, c'est qu'à un moment donné, pendant la guerre, c'était un hit, si vous permettez, un immense succès à toutes les radios, tant en version française qu'en version allemande qu'en version anglaise. Alors, il s'était même établi un protocole entre des combattants qui était à 6 heures le soir, on arrête de tirer un peu, puis on fait jouer Lili Marlène. Puis t'entendais Lili Marlène jouer en allemand, en français, en anglais. Alors voilà pour la grande Marlène Dietrich.
On me dit qu'on a beaucoup de très bons appels. Hubert, d'abord, je vous écoute, Hubert.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Moi, je voulais vous parler de mon grand-père parce qu'il a quand même eu un parcours très remarquable parce que quand il s'est enrôlé, je pense, en 41, il a commencé tout d'abord comme opérateur de radio dans les fameux bombardiers Avro-Lincassu au 439e escadron à Saint-Hubert. Puis étant donné qu'il était bilingue, ben ça lui a ouvert beaucoup de portes. Fait que je sais qu'à un moment donné, il a rejoint les commandos avec les forces britanniques, puis c'est à ce moment-là qu'il a fini par faire le débarquement de Normandie, puis il s'en est tiré aussi.
Il s'en est tiré? Oui.
Est-ce qu'il vous en a déjà parlé?
Ben malheureusement, je ne l'ai pas connu, parce que quand il est mort, mon père, il avait 25 ans à l'époque.
Oui.
Il en a-tu parlé à son père?
Il a juste dit une affaire, puis c'était à ma tante, puis je vous cite ce qu'il a dit. Faut que tu cours vite en tabarnak. C'est la seule chose qu'il a dit.
C'est quelque chose. Hein? Ah, c'est du vrai, là. Ça, c'est du vrai, là.
Ah oui, tout à fait.
Faut que tu cours vite en tabarnak.
Parce que, écoutez, pour avoir visité la plage Juno Beach en 2008 avec mon père, on nous avait expliqué que lors de l'opération, il y avait eu tellement d'erreurs humaines, par exemple. Eux, ils étaient supposés de débarquer à 200 mètres de plus proche de leur cible, mais au lieu de ça, ils ont été débarqués à 200 mètres plus loin à cause que la marée était basse.
C'est ça, la marée, ils ont fait déplacer, effectivement. Oui.
Fait que la seule place qu'ils pouvaient se cacher, c'était dans les cratères d'obus. Sinon, ils étaient à feu découvert sur 200 mètres.
Merci, Hubert, pour l'appel. J'ai Sylvie qui m'écrit, écoute bien ça, elle dit « Bonjour Bernard, ma mère qui a 98 ans était en amour avec un pilote d'avion qui a quitté pour la guerre et malheureusement n'est pas revenue. Elle a refait sa vie, mais elle dit encore qu'il était l'amour de sa vie et elle a encore des photos de lui dans sa chambre. »
C'est quand même formidable. Hein? C'est quand même formidable.
Hein? Micheline. Bonjour, Micheline.
Bonjour, ça va bien?
Oui, très
bien.
Bonjour.
Oui, moi, mon père a fait la deuxième guerre. Il était marin. Puis toute sa vie, mon père a toujours eu des problèmes d'estomac, des ulcères. Puis à la fin, aux soins palliatifs, il demandait, parce que le prêtre est venu le voir, ils vont-tu me pardonner, le Seigneur, d'avoir tué des gens qui m'ont rien fait et j'ai été obligé de les tuer?
Yes.
Tout le temps qu'il était malade, il disait toujours ça.
C'est quand même extraordinaire.
C'est ça, la guerre aussi.
En passant, moi qui... Bon, je vous ai parlé abondamment de Normandie. Une chose, si vous vous rendez en Normandie, que peu de gens font, mais que c'est une erreur de ne pas le faire, il faut aller voir le grand cimetière allemand de la Normandie. D'abord, il y a tout ce côté très cérébral, la façon que c'est aménagé, le design des lieux, tout ça, l'aménagement paysager, c'est extraordinairement beau. Et en même temps, je sais pas quoi, il y a comme, je sais pas si on appelle ça une sérénité ou quoi, il y a quelque chose quand t'es là de quasiment mystique d'être là. Et il y a pas aucun soldat qui est identifié, tout ce que ça dit, c'est un soldat allemand, je le dirai pas en allemand, là, parce que j'ose pas, mais un soldat allemand, puis ça dit l'âge où il est mort. Ils ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'est tout comme ça.
Merci beaucoup, Micheline, pour l'appel. C'est Pierre qui nous appelle maintenant. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour.
Oui, on vous écoute,
oui,
Pierre.
Oui, vous m'entendez.
Très bien.
Oui. En fait, mon oncle a fait le débarquement, et quand il est revenu au pays, moi, je ne l'ai jamais connu, parce que ma mère a déjà 82, et c'était un bébé plus tard que les autres, là, genre 20 ans de différence. Mais lui, il s'en est jamais remis, là. Okay? Il n'est pas revenu au Québec. Il s'est en allé comme bûcheron quelque part en Saskatchewan. Et à un certain moment donné, ma mère a reçu des correspondances de lui, comme quoi il était mort brûlé dans un petit chalet là, isolé. Puis il avait écrit des lettres là, comme quoi il avait jamais accepté tout ce qui était arrivé. Puis on n'a jamais su si c'était mort volontaire ou pas. Mais ça laisse quand même des traces, parce que même ma mère, c'était son propre frère, puis elle s'en rappelle encore, même à 82 ans, comme si c'était quelque chose de très récent dans sa vie. Là. Puis,
et
dans les lettres...
Et il faut le dire, les gens qui ont été exposés à autant d'hostilité et autant de dangers, ils en reviennent, ils sont un peu... Tu sais, ils sont mal,
oui.
ils sont amochés.
T'es fragile. Merci.
Oui, oui. Écoute, clairement, oui.
Merci beaucoup, Pierre. Merci. Écoute bien ça, Jacques qui nous écrit. En 1979, j'ai couché dans une auto louée près d'un parc à Amsterdam. En pleine nuit, des policiers se sont approchés de mon véhicule et m'ont demandé mes papiers et mon passeport. Dès qu'ils ont vu que j'étais Canadien, ils se sont excusés comme si j'étais le pape. De retour à la maison, mon père, féru d'histoire, m'a expliqué que ce sont les Canadiens qui ont libéré Amsterdam. J'en revenais pas que 34 ans plus tard, l'effet du débarquement était encore vivant.
Ben oui. Puis oublions pas, là, un des premiers à avoir touché le sol français parmi les Canadiens, c'est Léo Major. On l'a mentionné à 1h15. Léo Major, qui a reçu de très nombreuses décorations, on se demandait s'il y avait eu la Croix de Victoria. Non, c'est pas le cas. Néanmoins, ce gars-là, c'était un Rambo, là. Et quand les forces canadiennes essayaient de libérer les Pays-Bas, à un moment donné, il y a une ville qui s'appelle, je pense, c'est Zola qu'elle s'appelle, une ville d'à peu près 80 000 habitants. Il a pris le contrôle de la ville.
Incroyable.
Tout seul. Quand tous les Allemands qu'il y avait là. C'est presque incroyable. En passant, j'ai cru comprendre qu'il y a une série télévisée qui est en développement sur l'histoire de Léo Major. Alors,
c'est fou, là. C'est fou.
Et Léo Major, là-bas, c'est comme un dieu, là, tu comprends? Il a été décoré par la reine.
Vous ferez Google, Pays-Bas. Léo Major, vous en reviendrez pas. Colette qui nous appelle. Bonjour, Colette.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bien, en fait, mon père, ma mère est polonaise. Alors, étant donné que c'était le premier pays qui a été... excusez-moi, je suis un peu...
émue.
Un peu émue aujourd'hui.
C'est
oui.
Correct, c'est
alors,
correct.
Alors, c'était le premier pays qui a été envahi. Alors, oui. Du jour au lendemain, les écoles ont fermé. L'appartement, la maison où ils vivaient, les Allemands sont rentrés. Et ma mère elle avait 14 ans. Elle a été obligée de travailler en Allemagne pendant 5 ans de temps. Et les conditions dans lesquelles elle travaillait comme 14 heures par jour, ils n'étaient pas nourris, très peu nourris, là, des pleurs de pommes de terre. Et mon père, qui est français, lui, parce que la France était toujours... elle était toujours mieux, comment dirais-je? Oui, mais la France était, je trouve pas le mot là. Disons qu'il y avait des ils étaient beaucoup mieux traités en fait que les Polonais. Alors mon père était dans les STO, qui c'était les services travail obligatoires. Mm-hmm. Alors il ne voulait pas y aller, il s'est caché. J'ai même visité parce que mon père vient d'un petit village en Savoie. Il s'est caché pendant une semaine. Pour pas aller en Allemagne, mais finalement il était obligé parce que les Allemands étaient partout ils étaient ma grand-mère, parce qu'on avait des terres dans la famille, et les Allemands, ils venaient, ils réquisitionnaient, que ça soit du pot de confiture ou à l'acier, c'était incroyable. Puis ma grand-mère, qui avait, excusez l'expression, une tête de cochon, il lui avait demandé si elle avait des... si elle avait de la nourriture, si elle avait, elle avait dit non. Elle aurait pu être fusillée. Elle avait plein de bocaux dans le, dans sa cave. Mais finalement, grâce à Dieu, elle n'a pas été, elle a survécu à tout ça. Mais ce que je peux dire de ça, c'est que moi, mon père, étant donné qu'il a toujours été mieux traité, en a toujours parlé et il regardait toutes les émissions françaises. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission Un village français qui était sur TV5. Mon père l'écoutait. Il dit c'est exactement ce qui se passait. Tu vivais dans ton village et tu ne savais pas si la personne à côté de toi était un collabo, si tu pouvais lui faire confiance, les gens qui n'étaient pas en Allemagne.
Non, c'était infernal, madame. C'était infernal.
Infernal. Par contre, on peut dire que c'était une belle histoire dans le sens que mes parents se sont rencontrés. Ma mère parlait polonais, mon père parlait français et ils ont appris l'allemand. Et ma mère, elle avait très peu de sorties, je crois que c'est une fois par 2 mois ou 3 mois. Et elle a rencontré mon père durant une de ses sorties et ils sont tombés follement amoureux. Et à la fin de la guerre, parce que moi, aujourd'hui, j'ai écouté toutes les cérémonies, mais c'est en 44. Et mes parents, qui étaient tous les deux en Allemagne, ils ne savaient pas, là, on écoutait, là, il y avait la radio. Tu sais, aujourd'hui, à l'ère de iPhone, etc., etc., quand on écoute ça, on écoutait la radio clandestine pour voir si on pouvait s'en aller. Quand tu as vu que tous les Allemands, ça, c'était en mai 45.
C'était la fin.
Mais bref, Colette, ils sont tombés en amour et ils sont devenus vos... c'est vos parents. C'est une belle histoire d'amour, dans le fond, en terminant. C'est ça,
il y a encore de l'amour.
Oui. Mais c'est quand même qu'à la fin, à cette fin-là, il y a combien de Polonaises, d'autres nationalités qui ont suivi des Français, mais tu ne connais pas, ma mère, elle avait 19 ans, tu ne connais pas la personne, mais finalement, après 69 ans, ils ont été 69, parce que mon père est décédé il y a 5 ans, ils ont été 69 ans, et ma mère vit toujours, et aujourd'hui,
Et vous la saluerez, Colette. Je dois vous remercier.
Il y a encore de la place pour l'amour dans la guerre.
Ah ça, oui, heureusement d'ailleurs.
Elle vient de faire référence à mai 45. Le 8 mai 1945, l'Allemagne a capitulé. Et il y a eu une grande célébration à Londres le lendemain, à Buckingham Palace. Il y avait plus d'un million de personnes. Et sur le balcon de Buckingham Palace, il y avait le roi George VI, la reine-mère, et les deux princesses, Margaret et Elisabeth. Et toute cette foule a entonné une chanson très à la mode à l'époque d'une grande chanteuse, Vera Lynn, qui a 102 ans, je pense, maintenant. Elle est toujours vivante.
Et c'est cette chanson,
que nous allons entendre. Toute la foule l'a chantée et même les membres de la famille royale chantaient avec la foule.
Merci, Luc. Merci beaucoup. Don't know where, don't know where.